Le débat du jour, Jean-Baptiste Le Tondeur.
Bonsoir à tous. Vous venez de l'entendre, c'était il y a quelques jours en Corée du Nord, l'exultation de la présentatrice du journal télévisé après le tir réussi de la fusée Voie lactée numéro 3, 32 mètres de haut, 6700 km de portée. L'engin est une victoire scientifique pour Pyongyang, mais il est peut-être aussi et surtout une menace militaire pour toute la région et même pour les États-Unis. Washington l'assure, ce tir officiellement destiné à mettre sur orbite un satellite est avant tout un essai déguisé de missiles balistiques capable d'atteindre la côte ouest américaine. Alors que cherche Pyongyang, le régime nord-coréen est-il prêt à la confrontation? A-t-il vraiment les moyens de défier la communauté internationale? Les questions sont d'autant plus grandes que cela fait aujourd'hui un an, jour pour jour, que le nouveau leader Kim Jong-un a remplacé son père, Kim Jong-il. Que sait-on de lui, de ses intentions? Est-il plus enclin au dialogue ou au contraire plus va-t-en-guerre? Nous en débattons ce soir avec nos trois invités. Bonsoir Pierre Rigoulot.
Bonsoir.
Chercheur, historien, vous êtes le directeur de la revue Histoire et Liberté, vous êtes notamment l'auteur de Corée du Nord, État voyou, c'est aux éditions Buchet-Chastel. Mm-hmm. Face à vous, Benoît Kennedy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le vice-président de l'association d'amitié franco-coréenne et vous êtes également l'auteur d'un livre, L'économie de la Corée du Nord, à paraître aux Indes savantes. Et puis, Arnaud Duval, merci d'être avec nous.
Bonsoir.
Vous avez, vous, voyagé en Asie pendant une quinzaine d'années et notamment en Corée du Nord. Vous en avez tiré un livre qui vient de paraître, Le dernier testament de Kim Jong-il. Il était une fois la Corée du Nord, à découvrir aux éditions Michelon. Alors revenons d'abord, Pierre Rigoulot, avec vous sur le tir de cette fusée. C'était le 12 décembre. S'agit-il d'une avancée technique majeure ?
C'est une avancée, je ne sais pas si elle est majeure, mais c'est une avancée claire. En avril, il y avait eu un échec d'une tentative de propulser une fusée. Là, c'est une réussite indéniable. Alors, naturellement, il y a un peu de gesticulation aussi dans l'inquiétude qu'on manifeste ici et là, et dans l'exaltation qu'on manifeste. Je veux dire par là que ça ne change pas radicalement la donne. Le Japon, la Corée du Sud pouvaient être menacés avant même que ce missile parvienne à son là où on voulait l'envoyer. Et de même, les États-Unis ne sont pas menacés d'une bombe nucléaire demain, je veux dire après la réussite de ce lancement de missile. Il faudrait par exemple miniaturiser une bombe nucléaire, pouvoir la mettre dans une ogive, etc. Nous n'en sommes pas là. Mais il y a indéniablement un progrès.
Vous, vous parlez de missiles et pas de satellites, comme le dit Pyongyang.
Bon, les missiles, ça peut servir aussi à propulser un missile. De toute façon, un satellite, de toute façon, les leçons qu'on peut tirer du lancement d'un satellite sont intéressantes aussi sur le plan militaire. Il n'y a pas malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, en tout cas, il n'y a pas de muraille de Chine, c'est presque le cas de le dire, entre la recherche scientifique civile et la recherche militaire.
C'était tout de même inattendu, vous l'avez dit, la Corée du Nord avait tenté l'expérience en avril, elle l'avait échouée. Il était dit que c'était quasiment impossible de procéder à ce genre de tir en plein hiver. La Corée du Sud, d'ailleurs, avait elle aussi testé l'expérience il y a quelques semaines. Elle avait échoué, donc quand même, là aussi, c'est quand même une réussite, quoi qu'on en pense.
Oui, d'autant, surtout si l'on veut marquer le coup pour un anniversaire. En avril, c'était, si je me souviens bien, le 100e anniversaire de la naissance du leader, et de Kim Il-sung, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, aujourd'hui, à quelques jours près, mais c'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui effectivement que ça s'est passé, c'est le premier anniversaire de la mort de Kim Jong-il. Donc, il y avait... je crois, une volonté de marquer le coup fortement sur le plan symbolique.
Oui. Benoît Kennedy, vous partagez ce que vient de dire Pierre Rigoulot ?
Oui, je crois, pour l'essentiel, je partage tout à fait cette analyse. Il faut voir qu'effectivement, c'est une avancée technologique majeure. Aujourd'hui, la Corée du Nord fait partie de la petite dizaine de pays qui sont capables, qui disposent de technologies spatiales capables de mettre sur orbite un satellite. Alors après, le point qui semble intéressant, satellite ou missile, puisque c'est une des questions, comme vous le faisiez remarquer, qui est extrêmement importante. Bon, ne nous leurrons pas, les technologies spatiales ont toujours eu partie liée avec la technologie militaire. Les États-Unis ont accompli de grands progrès dans le domaine spatial, des progrès d'autant plus grands à l'époque où ils étaient en confrontation avec l'Union soviétique. L'autre élément qu'il faut retenir, c'est que la Corée du Nord de 2012 n'est plus la Corée du Nord de 1998 lorsqu'elle procédait au premier lancement. C'est un tir qui a été unanimement reconnu par la communauté internationale, par les experts américains. C'est un pays qui a accompli des progrès sur le domaine scientifique, technologique, et qui, même s'il est toujours confronté à des difficultés économiques réelles, a la capacité, avec des technologies qui lui sont propres, d'accéder au club fermé des puissances spatiales.
Enfin, il lui manque quand même, vous le souleviez il y a quelques instants, Pierre Rigoulot, cette faculté de miniaturiser les missiles balistiques. Pour l'instant, on en est très loin. On est encore au stade du bricolage.
Non, il ne s'agit pas de bricolage, il s'agit des premiers pas dans une recherche longue. Mais je voudrais dire que ce qui m'inquiète toujours à propos de la Corée du Nord, ça n'est pas tant ces recherches de missiles à longue portée, c'est la capacité que la Corée du Nord a de frapper ses voisins. Et les relations entre les voisins, je pense au Japon et à la Corée du Sud, ne sont pas assez bons pour que je sois tout à fait serein. Mais dans l'ensemble, je ne crois pas que les dirigeants nord-coréens soient assez audacieux pour se lancer dans une opération militaire. Et que le problème de la Corée du Nord, c'est pas tellement celui-là. Pour moi, c'est d'abord un problème politique, la nature politique de la Corée du Nord, le fait qu'il y ait un parti unique, une idéologie unique et obligatoire, et qu'il y ait des camps de concentration, ça me pose
problème.
Autant
de points sur lesquels on va revenir.
Oui, oui, je m'en doute, mais je veux relativiser par là les craintes qu'on peut avoir à propos du développement balistique de la Corée du Nord aujourd'hui.
Arnaud Duval.
Oui, il y a aussi une autre dimension avec cette avancée qui est somme toute assez logique. Alors, elle est spectaculaire aujourd'hui parce qu'elle est unanimement reconnue comme étant une avancée réussie. Et qu'en général, on parle des expériences nord-coréennes comme étant des échecs. Là, c'est un peu à mettre en parallèle avec les essais nucléaires qui avaient lieu quelques années auparavant, qui avaient surpris un petit peu par leur avancée. Il faut voir que la Corée du Nord aussi, depuis les années 80... Avant les années 80, la Corée du Nord était plus développée que la Corée du Sud. Après les années 80, il y a eu un peu une perte d'influence et il y a eu une certaine désindustrialisation avec l'affaiblissement du bloc soviétique. Dans le rapport qu'ils ont entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, l'avancée technologique que représente l'espèce d'aventure spatiale, l'aventure nucléaire, est quelque chose que les Sud-Coréens n'ont pas développé.
Donc ils ont échoué encore récemment.
Autant dans les biens de consommation, autant dans pas mal de domaines, la Corée du Nord est très en retard. Autant sur ces deux points-là, ils y portent énormément d'attention, justement par souci de différenciation avec la Corée du Sud.
Ah, on le disait, le régime a profité de ce tir de fusée pour alimenter la machine à propagande à travers, on l'a entendu, la télévision, à travers aussi de grandes parades à Pyongyang. À qui s'adresse le message ? S'adresse-t-il seulement au monde entier ou aussi à la population local.
Il s'adresse aux deux.
Arnaud Duval.
Il s'adresse aux deux. Il s'adresse d'abord à la communauté internationale. On se rend compte qu'on ne parle de la Corée du Nord que lorsque il y a des événements un peu provocateurs. Donc, comme ils ont envie de mettre le sujet sur le tapis et d'enclencher un dialogue, si ce n'est direct avec les États-Unis, en tout cas avec la communauté, ils sont de temps en temps forcés de forcer le trait et donc de provoquer un peu l'actualité. Après, il y a aussi
le côté interne.
Le côté interne. Donc, c'est 2012. 2012 est un objectif qui a été affiché depuis une dizaine d'années. C'est le 100e anniversaire de la naissance de Kim Il-sung. Donc, 12 est un chiffre magique. La fusée a été lancée le 12 décembre 2012. Donc, il y a une portée, évidemment, symbolique vis-à-vis du peuple Nord-coréen.
Pierre Rigoulot, Kim Jong-un a-t-il besoin de renforcer son leadership? Et ce tir de fusée peut-il l'y aider?
Indéniablement, un tir réussi ne peut que servir Kim Jong-un. La question est en effet de savoir pourquoi poursuivre dans cette voie-là, alors que la population, dans l'ensemble, souffre de la faim, en tout cas souffre de disette, a tant de problèmes économiques, tant de problèmes sociaux. Nous parlions tout à l'heure hors micro de la... de la faible qualité, c'est le moins qu'on puisse dire, du système hospitalier nord-coréen. Il y a le choix qui est fait par Kim Jong-un et les dirigeants d'une façon générale. En ce sens, il est dans la suite de ce que faisait son père. On a l'impression d'un choix entièrement consacré au développement de la puissance militaire. Mais, encore une fois, ce type de régime, que j'appelle totalitaire, choisit ce type de développement. Et au moment où l'Union soviétique envoyait des Spoutniks, eh bien, on manquait de beurre à Moscou.
Mais la priorité aux militaires, ce n'est pas tout à fait ce que disait Kim Jong-un il y a encore quelques semaines. Dans ses rares interventions publiques, il avait déclaré, je crois que c'était au mois de juillet, que finalement le militaire devait être surpassé par la nécessité d'assurer, disons, de meilleures conditions de vie à la population. On a changé, c'est une volte-face, non ?
Je ne crois pas que ce soit une volte-face, mais certainement, il y a de nouvelles données politiques. Pour le moment, on ne peut pas dire que l'armée soit mise de côté. Mais il y a quand même eu des changements. Il y a le responsable de l'armée qui a été remercié et changé. Et puis, c'est vrai que Kim Jong-un a besoin, pour asseoir son autorité, d'autre chose que des missiles. Et il n'a plus la même aura que son père et encore moins que son grand-père. Le grand-père avait une aura que le petit-fils n'a pas. Et je pourrais faire le rapprochement avec Cuba. Raúl Castro n'a pas l'aura de son frère Fidel, et il joue aussi la carte de l'amélioration de la vie matérielle de la population nord-coréenne pour trouver une légitimité qu'il n'a peut-être pas de façon aussi assise que ses prédécesseurs.
Une aura moindre pour Kim Jong-un, cela signifie-t-il que la population nord-coréenne exprime de plus en plus son mécontentement? Arnaud Duval, Benoît Kennedy.
Oui, ce qu'il faut voir, c'est que la légitimité de la Corée du Nord s'est fondée dans le combat contre la colonisation japonaise et le combat de la résistance. La Corée du Nord, comme la Chine et le Vietnam, ce sont des régimes dont la légitimité a été fondée sur la restauration de la souveraineté nationale, la lutte pour l'indépendance. Donc en cela, la Corée du Nord n'est pas une exception dans cette partie du monde. On a le même schéma en Chine, le même schéma au Vietnam. Et finalement, l'idée que Kim Jong-un est le successeur de Kim Jong-il et de Kim Il-sung, donc Kim Il-sung, donc héros de la résistance anti-japonaise, est un schéma qu'on retrouve dans d'autres parties du monde.
À l'exception près, tout de même, que les conditions de vie ne sont pas tout à fait les mêmes en Corée du Nord et au Japon ou en Corée du Sud.
Ce qui est intéressant, et c'est ce que disait M. Duval, c'est que jusqu'au début des années 80, la Corée du Nord est plus développée que la Corée du Sud. Le changement apparaît dans les années... Bon, après, on peut discuter, la date.
On va pas refaire l'histoire.
Bon. Mais en tout cas, la Corée du Nord a été longtemps plus développée. Ce qui s'est passé... Il y a eu l'embargo qui a continué de faire ses effets. Il y a eu la disparition du bloc soviétique. Il y a eu de graves catastrophes naturelles dans les années 90. Ce sont autant d'éléments qui ont entraîné un important recul économique. Et l'objectif qui a été lancé et appuyé par des mesures économiques, les réformes dites du 1er juillet 2002, va justement dans le sens d'une ouverture, du développement des marchés privés. Donc il y a des signes de changement. Après, tout ne se fait pas du jour au lendemain.
Arnaud Duval, vous qui êtes allé sur place à plusieurs reprises, qui décrivez dans ce livre, Le Dernier Testament de Kim Jong-il, la difficulté d'ailleurs à entrer en contact aussi avec la population nord-coréenne. Est-ce que vous partagez cet optimisme exprimé par Benoît Kennedy à l'instant ?
En ce qui concerne la Corée du Nord, il faut pas être optimiste ou pessimiste. Il faut essayer d'être réaliste et c'est très difficile. Donc, le premier voyage que j'ai fait, c'est en 2002. C'est effectivement le moment des grandes réformes économiques qui ont été décidées. J'y suis retourné sur une petite décennie. Dernier voyage en 2009. Il y a effectivement une évolution. C'est pas une société qui est morte. C'est une société qui fonctionne, qui évolue. C'est tout à fait logique.
Dans le bon sens?
C'est-à-dire que ça dépend où vous vous trouvez. Et c'est là où est le problème. C'est que les écarts, les disparités qu'on peut trouver entre la capitale et les contrées un peu plus éloignées ou entre les types de population a tendance à s'agrandir. Effectivement, à Pyongyang, on voit plus de voitures, il y a quelques téléphones portables, etc. Les magasins sont un peu plus achalandés.
Oui, vous nous parlez, à lire votre livre, on a l'impression que Pyongyang est une ville presque occidentale. Hein.
Non, faut pas exagérer.
Des femmes habillées à l'occidental, ce que
faut
vous
pas exagérer, mais c'est vrai que le régime porte un effort tout particulier à Pyongyang, qui est la vitrine du régime. Mais
comme dans tous ces pays.
Oui. Voilà, mais quand vous êtes résident à Pyongyang, vous n'avez pas le droit de sortir à plus de 50 km de Pyongyang, parce qu'au-delà de Pyongyang, il y a à l'envers du décor qui est en l'état, hein, la population est certainement en majorité dans le même état de sous-alimentation qu'elle l'était il y a 10 ans.
La famine qui a fait près de 2 millions de morts dans les années 90. Benoît Quenedet.
Justement, c'est intéressant parce qu'également, j'ai eu l'occasion de visiter la Corée du Nord à 4 reprises entre 2005 et 2012. On voit des changements et c'est vrai que c'est un des grands soucis en tant qu'auteur de l'économie de la Corée du Nord, d'essayer d'apprécier le reste de l'évolution du pays. Pyongyang évolue plus vite, mais Pyongyang n'est pas la seule zone à évoluer. Par exemple, je pense aux zones économiques spéciales, qui sont assez inspirées du modèle chinois.
Mais très en marge de la société.
Mais en marge de la société, c'est vrai.
Politiquement, géographiquement...
Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que déjà en 2005, les preuves alimentaires, parce qu'on a pu voyager à travers le pays, étaient dépassées, mais la situation n'est jamais donnée une fois pour toutes. Le pays n'a qu'un sixième de terres arables, et la question alimentaire reste aujourd'hui encore un défi.
Oui, et puis surtout, vous en reconnaîtrez, il y a des choix politico-économiques dont on peut se demander s'ils sont les bons pour nourrir une population. Ce système économique planifié et centralisé n'a nulle part donné de bons résultats. Je ne vois pas pourquoi, en Corée du Nord, qui en plus est affectée par les difficultés que vous avez raison de souligner, s'en sortirait mieux.
Ce n'est plus tout à fait cela. Ça, c'était il y a plus de 10 ans.
Arnaud Duval.
Oui, je partage ce que disait aussi Pierre Rigoulot auparavant. Il y a aussi une permanence dans le système politique, le système administratif nord-coréen, qui est tout à fait étonnant. Je veux dire, c'est le seul exemple, comme on dit, hein, de société qui a perduré dans sa forme administrative. Cette permanence, elle s'explique aussi par son ancrage, l'ancrage qu'elle a mis dans l'ancrage culturel, social, historique, et qui explique que ce système perdure aujourd'hui encore.
Avec une société, vous nous le racontez très bien dans votre ouvrage, une société très hiérarchisée.
C'est un pays de culture confucéenne.
Alors il y a un maillage de la société.
Maillage de la société des classes.
Voilà, hein, c'est un maillage horizontal avec des associations qui donnent un rôle à chacun. Un maillage effectivement un développement aussi horizontal avec une forme très hiérarchique, voire militaire. Et puis aussi le sens de la famille, le culte de la famille, donc le père, le maître est évidemment vénéré là-bas.
Vous laissez entendre aussi dans votre livre que la communauté internationale est finalement complice de ce système, de ce régime aussi fermé, dictatorial.
Ben, on dit toujours, quand est-ce que la Corée du Nord va évoluer ? Et je pense qu'elle va évoluer lorsque la communauté internationale évoluera à son égard également. Je veux dire, la Chine a intérêt au statu quo, les États-Unis aussi dans sa forme de retour en Asie a besoin de cette carte qui est la Corée du Nord, le Japon également a une sensibilité très forte sur ce sujet-là. Tant que l'appréciation de chacun de ces pays n'aura pas changé sur le pays, sur la Corée du Nord, je vois pas comment le régime peut évoluer.
Pierre Rigoulot, 15 secondes.
J'ai l'impression qu'on a essayé beaucoup de choses. On a essayé aussi la main tendue, les discussions, le dialogue, les conversations, et puis on a essayé aussi la manière forte. J'ai pas l'impression que les choses aient beaucoup changé.
Merci Pierre Rigoulot d'avoir été avec nous. Je rappelle votre livre, Corée du Nord est un voyou. Merci à vous Arnaud Duval. Le dernier testament de Kim Jong-il et à vous aussi, Benoît Quenedet.